Donc on va commencer le Péricle d'Alèphe, chapitre 11. Donc on est à la page 198.
198, Pérec, Yudalef, chapitre 11. Donc je vais faire un petit résumé. Ouais, donc je pense à ce qu'on avait prévu. On a Bezrat Hashem d'ici Pessah, on aura terminé. Qu'un Tachouva, enfin, on aura terminé de l'étudier une première fois.
Si tu veux que ma chère, il arrive avant,
d'accord.
Pour qu'il puisse finir avant.
Alors, donc on avait expliqué, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a expliqué dans le chapitre d'avant. On va pas faire tout le résumé du Egaret Hatshuva. Allez, un peu de sérieux parce que sinon on s'évade, messieurs. Alors, donc on va pas faire le résumé de tout Egaret Hatshuva, mais on va faire un résumé rapide, vite fait, de ce qu'on a expliqué aux deux derniers cours, donc les deux cours d'avant. Dans le chapitre Yud, Perek Yud, chapitre 10. On a expliqué deux points, principalement. On s'est focalisé sur deux points. Premier point qu'on a expliqué dans le chapitre Yud, c'est le fait qu'aujourd'hui, on nous demande de nous focaliser beaucoup sur la Simcha. Que bien que normalement, il y a une partie de la journée dans laquelle on doit se focaliser sur nos mitzvot, et donc sur le fait qu'on doit toujours chercher à avancer, et une autre partie de la journée dans laquelle on doit essayer de se rappeler ce qu'on a fait, la vérote qu'on a fait, ou le manquement de mitzvot qu'on a positif qu'on aurait dû faire, et qu'on doit donc notamment faire teshuva sur ça, retourner sur ça, et donc décider de se bien se comporter dorénavant. On a expliqué que néanmoins, le Rabbi a expliqué que dans les générations d'aujourd'hui, étant donné que on a beaucoup de mal à gérer la tristesse, et que dès qu'une personne commence à être un peu triste sur sa vérote, tout de suite, il sombre dans la dépression. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier point qu'on a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'accorder de la place à la tristesse. Et même s'il le faut, très peu. Ça, c'est un premier point qu'on a expliqué. Un deuxième point qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que l'Admor HaZaken a expliqué le concept du Shabbat. Et avec le concept du Shabbat, on a compris beaucoup de choses. Le concept du Shabbat, il a expliqué, il a dit que lorsqu'une personne, même si toute la semaine, il n'arrive pas à faire une bonne tfila, parce qu'il n'arrive pas à prendre le temps pour faire une bonne tfila, vous vous rappelez, il y a deux semaines, on avait expliqué les préparations qu'il faut faire avant de faire une bonne tfila. Notamment, c'est forcé d'aller au mikvé, c'est forcé de mettre la tzedaka, c'est forcé d'étudier un petit peu avant, etc. Alors, pensez à la grandeur de Kadosh Baruch Hu. On avait expliqué longuement il y a deux semaines. Alors, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que même si on n'a pas le temps de le faire, même si on n'a pas le temps de le faire tous les jours, mais si on arrive à le faire au moins Shabbat, le Shabbat a un pouvoir extraordinaire, c'est que le Shabbat a la capacité de faire monter avec lui tout ce qui s'est passé dans la semaine. C'est comme une locomotive. D'accord, qui a une capacité que si tu arrives à, c'est-à-dire même si toute la semaine était un peu mort, donc il y avait des wagons, on a fait des wagons mais qu'ils n'avancent pas, si Shabbat on arrive à bien faire, Shabbat c'est une locomotive qui amène avec elle toute la semaine. Et c'est pas seulement spirituel, c'est que concrètement on le sent. Ça veut dire que quand on va commencer la journée du dimanche d'après, c'est comme si qu'on a passé une semaine entière pleine de Torah. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est l'histoire du Shabbat.
Bon dimanche.
Alors maintenant, on va s'arrêter sur Perek Yudalef. En fait, Perek Yudalef, on va s'arrêter sur un point qui nous a dérangé déjà depuis plusieurs chapitres. C'est, on va essayer de faire le juste milieu, d'accord? Donc de faire le, qu'on appelle ça, la, de balancer, entre, d'accord? De contrebalancer entre la simra et la tristesse. Parce que c'est vrai qu'on a expliqué dans les chapitres précédents que concrètement aujourd'hui, le Rabbi a expliqué qu'on ne doit pas accorder de la place à la tristesse, parce que la tristesse, ça nous amène tout de suite à la dépression, et que même s'il faut se préparer avant la tfila, mais toujours se doit dans la simra, et que même Rosh Hashanah et Kippour se doit dans la simra, ok. Mais concrètement, lorsqu'une personne a fait d'avérant, tu ne peux pas lui demander de faire comme si de rien n'était. Bonsoir. C'est très difficile. Une personne qui a fait d'avérant, c'est très difficile de lui demander de faire comme si de rien n'était. Donc forcément, il y aura forcément, un moment ou un autre, un sentiment de, peut-être, soit de tristesse ou de frustration. Vous savez ce que c'est la frustration? C'est quand on a un sentiment qu'on aurait pu faire plus et qu'on n'a pas fait plus. Donc ça, on est obligé, que tu veux ou que tu ne le veuilles pas. Par exemple, j'allais faire une affaire, je l'ai ratée. Même si tu me dis n'y pense pas, ben, c'est sûr que je vais y penser. Je vais y penser que j'aurais pu le faire. Donc c'est, on va devoir essayer de balancer, d'accord? Donc de faire ici une balance, de faire ici donc de contrebalancer, la tristesse et la simra. Et vous allez voir comment il va expliquer des choses extraordinaires. Et on va, pour ça, on va reprendre des notions qu'on avait expliquées dans le chapitre 34 du Tanya. 34. Voilà. Donc on va prendre tout de suite, sans tarder, Perek Yud Aleph, chapitre 11. Ça veut dire comme ça. Bien que normalement, le Baal Teshuva, donc je veux qu'on comprenne bien où on va. De toute façon, avec le suite du cours, on comprendra Bezrat Hashem. Bien qu'on a expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant que le rabbi a dit que de nos jours, on n'a pas le droit d'accorder de la place à la tristesse. Mais ça, c'est lorsqu'une personne commence à faire sa teshuva. Lorsqu'une personne commence à faire sa teshuva, on lui dit, si tu vas commencer à penser à ta vérote, tu feras jamais teshuva. Donc, démarre la voiture, tu avances et tu regardes pas ce qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est ce qu'on lui dit au début quand il commence à faire teshuva. Mais après, avec le temps, tu peux pas l'empêcher de regarder les rétroviseurs et de voir ce qu'il y a derrière. C'est pas. Eh oui, au début, tu peux lui demander. Au début, quand une personne commence à faire teshuva, tu peux lui dire, fais comme si t'as jamais rien fait dans ta vie, t'es un grand sadique, oublie tout, etc. Mais après, à un certain moment, quand il perd un peu d'élan, il se dit, mais attends, tu t'imagines d'où je viens? T'imagines ce que j'ai fait? Attends, mais qu'est-ce que je joue le rabbin, là? Qu'est-ce que je joue le religieux, là? Qu'est-ce qu'à quoi je joue, là? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Et ça le calme, tout de suite, net. D'accord? Alors, c'est soit il se le dit, soit on lui dit. Un des deux. D'accord? Donc, il y a un problème. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Et on va devoir essayer de contrebalancer la simcha que j'ai d'avoir fait teshuva avec la tristesse de mes avérotes qui me reviennent. Et ça, c'est, on peut rien y faire. C'est sûr que ça me revient.
C'est un ridouche, ça, non?
Bien sûr. Ça, c'est la deuxième étape.
Non, parce que...
On a expliqué jusqu'à présent qu'il faut toujours regarder devant. Maintenant, ce qui t'explique, c'est que même si tu regardes toujours devant, forcément, tu vas toujours jeter un petit coup d'œil au rétro pour voir ce qui se passe derrière.
D'où les dimanches.
C'est quoi derrière? Derrière, c'est d'où je viens. C'est très dur. C'est très dur. C'est un des plus grands pièges du Yetzer Hara. Tu t'arrêtes et dis, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? De quel droit? Alors, on va expliquer dans les mots ici. Ve omnam, cependant. Regardez, vous allez voir comment il va réussir à faire à mêler la tristesse avec la joie. C'est extraordinaire. Chapitre 11, Père Ecudalef, page 198. Bonsoir tout le monde, c'est que j'ai pas encore le temps de saluer. Combien on est? On est mignonne?
D'accord, ça va arriver.
Il manque. Moi, je peux t'en proposer, mais ceux qui veulent un café, il y a de l'eau et du café, tout ce qu'il faut. Alors, Véomnam, cependant. Liot belibo ahnara i prina tshuvat ata kanal vegam asimcha bashem shten beyachad. Maintenant, donc rappelez-vous, on a expliqué dans le chapitre 9 que et le concept de la soumission. Et qui dit soumission dit que la personne est plutôt triste. Une personne qui est soumise, forcément, c'est quelqu'un qui est recroquevillé sur soi-même. D'un côté, tu me demandes d'être soumis à Kadosh Baruch Hu. D'un autre côté, tu me demandes d'être besimcha. Donc là, ici, on va parler aujourd'hui du paradoxe du juif religieux. Comment d'un côté, c'est quelqu'un qui est soumis. Et c'est quelqu'un qui n'a pas son mot à dire. Ça veut dire que la loi, c'est la loi. Donc vous prenez en général quelqu'un qui est soumis dans le monde autour de vous. Une personne comme ça en général, c'est quelqu'un qui n'a pas le sourire. Et s'il a le sourire, c'est qu'il est bête. On est d'accord? Dans le monde autour de nous. Quelqu'un qui fait pas ce qu'il veut, qui n'a pas son mot à dire. On le laisse pas, on lui dit tu t'as rien à dire. C'est comme ça, c'est la loi. D'accord? Normalement, il sourit pas. Il est pas content. Et le paradoxe du juif religieux, c'est quoi? Comme il dit ici, je t'ai Veyachad, les deux, ensemble. Le paradoxe du jour religieux, c'est qu'on lui demande les deux en même temps. En même temps, on lui demande d'être Bessimra. Et s'il n'est pas Bessimra, s'il se tire une tête, on va dire, mais comment, de quel droit tu tires une tête? Bonsoir, de quel droit tu tires une tête? Comment on ne peut ne pas être Bessimra? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas Bessimra de servir à Kadosh Baruch Hu? Et d'un autre côté, tu lui dis oui, mais attention, il faut ne jamais oublier le fait que c'est pas toi le patron et qu'il y a un patron qui gère tout et tu dois l'écouter. Et attention à toi si tu l'écoutes pas. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus, je sais plus où aller, je ne sais plus quoi penser. D'accord. Vous avez des gens, non mais c'est vrai.
Oui.
Vous posez la question à quelqu'un qui n'est pas religieux. Demandez-lui comment tu vois un religieux. Il va te dire c'est quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un de soumis, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est triste parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut, il n'est pas libre. Il n'est pas la liberté. Quand on va lui expliquer que c'est ça la vraie liberté, il va dire, bah, du tout, moi je fais ce que je veux, lui il fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, moi je suis content, lui il est triste. Quelque part il a raison, c'est vrai que c'est la logique. Normalement quand tu bloques quelqu'un, bon ben il va se taire, mais tu peux pas lui demander d'être heureux. S'il est intelligent et comprend ce qui se passe, il peut pas être heureux. La Torah nous demande de faire les deux en même temps. En même temps d'être content, et en même temps d'être soumis. Il y a un problème. Comment c'est possible? Bah oui, c'est la schizophrénie, exactement.
Tu peux être content, parce que tu as le sentiment que tu fais, que t'es dans le droit chemin, que tu...
J'ai compris.
Dans le bon sens. Mais
ce que je vais expliquer, ça c'est quand t'es convaincu. Ça c'est quand t'es convaincu et que t'as pas de doute. Dès que t'as un doute et qu'on dit non, t'avances quand même.
Ouais, mais si t'as un doute, t'avances.
Et des doutes, on en a tous les jours.
Mais justement, quand t'as beaucoup de doutes, t'aimerais bien qu'on te dirige.
Bah justement, voilà, c'est quoi le problème? Maintenant j'ai un doute. Si maintenant la personne n'est pas religieuse, il a un doute, qu'est-ce qu'il fait? Oh ben aujourd'hui j'ai un doute, je fais pas. Tu comprends? Le juif religieux, jamais on lui dit t'as un doute alors que tu fais pas. D'accord? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a? Non. Ça veut dire qu'on te demande pas ton avis. On te donne la possibilité de chercher à comprendre, mais on te demande pas ton avis. Donc normalement, une personne à qui on ne demande pas son avis et qu'on lui impose des choix, normalement, c'est une personne qui n'a pas la joie de vivre. À moins qu'il est bête. Ça, c'est possible. Il y a des gens, ils sont bêtes. Ils se prennent des couilles, ils sourient. D'accord? Et quelqu'un qui est normal, il rigole pas. Il comprend qu'il est manipulé, donc il est pas content. Là, le problème du juif, c'est que le juif religieux, c'est que d'un côté, on lui demande d'être Bessimra, dans la Kadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, on lui dit, c'est la Kadosh Baruch Hu qui gère ta vie. C'est très difficile d'avoir les deux en même temps. C'est même impossible, normalement. Dans la vie de tous les jours, c'est impossible, normalement. Shtehem Beyachad, comme il dit ici. Et donc là, c'est ça en vérité le vrai paradoxe de la Teshuvah. C'est un paradoxe qui va se poser en deuxième phase. Rappelez-vous, ce qu'on a expliqué dans le cours d'avant et le cours d'avant, donc deux cours en arrière, on a expliqué que quand on commence à faire Teshuvah, il faut pas regarder en arrière. On fonce, on avance et tu t'occupes pas de ce qu'il y a derrière. Mais après, avec le temps, quand tu freines, tu vois ce qu'il y a derrière, ça te revient. C'est obligé que ça te revient, tu peux pas oublier. Alors comment tu fais à ce moment-là? D'un côté, t'es Bessimra, t'es revenu vers Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, t'as une tristesse et une frustration énorme des années perdues. Donc, tu fais quoi? Tu vas être en même temps joyeux, en même temps triste, c'est pas possible. Soit je suis joyeux, soit je suis triste. Comment c'est possible? Alors il dit l'Admorazaka, il dit Kvar Milta Amura. J'ai déjà répondu à la question. Kvar Milta Amura. J'ai déjà répondu à la question. Donc vous avez dans les mots, page 198. B, l'écouter à Marie, donc je suis la dernière ligne. B, l'écouter à Marie, donc dans la première partie du Tania qu'on a étudié ensemble. Sauf Perek, Lamed Dalet. Fin du chapitre 34. Lamed Dalet. Sauf Perek. Sauf Perek, c'est-à-dire à la fin, sa mère fait, c'est Sauf Perek. L'écouter à Marie. Ah, Lamed Dalet, c'est...
Dalet, on dirait un rèche.
C'est le premier mot de la page suivante. Lamed Dalet.
C'est pas possible.
D'accord?
Oui, mais...
Que Moshe Katou, Bezoar Akadosh. Alors, on a déjà expliqué la réponse à cette question, et donc on va devoir, et s'il le répète, d'accord? S'il le répète, c'est pas simplement pour dire, bon, c'est écrit là-bas, c'est parce qu'en vérité, maintenant, on va rajouter des éléments qu'on n'a pas expliqués dans le chapitre 34.
Compliment.
Ah oui. C'est que maintenant qu'on a compris pas mal de choses sur la Teshuvah, ça nous permet de comprendre pas mal de choses sur le paradoxe qu'un juif va avoir entre la Simcha et la tristesse, et comment il va gérer ce paradoxe. Alors d'abord, on va rappeler les éléments clés qu'on a étudiés dans le chapitre 34. Dans le chapitre 34, il a ramené ce qui est écrit dans le Zohar. Comment est-ce que tout le Zohar Kadosh, comme ce qui est écrit dans le Zohar, donc on a ramené dans le chapitre 34 ce qui est écrit dans le Zohar, Chedvat Kia Belibae Misitrada. Donc là-bas, le Zohar nous raconte une histoire sur Rabbi El-Hazar, Rabbi El-Hazar qui est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Et on raconte que là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, son père, lui, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu la destruction du Beth Amikdash. Il était dans la génération qui a vécu la destruction du Beth Amikdash. Et Rabbi Elazar, dans le Zohar, il raconte que son père lui a raconté le secret de la destruction du Beth Amikdash. Il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé derrière les coulisses. Pourquoi le Beth Amikdash était détruit. Et là-bas, Rabbi Elazar, il raconte la chose suivante. Il dit que j'avais d'un côté de mon cœur des pleurs et de l'autre côté de mon cœur une joie. D'accord? Alors, pourquoi il était joyeux? Ça, c'est plus simple. Enfin, pourquoi il était joyeux? Bah, parce que son père venait lui expliquer des secrets extraordinaires. Quand on comprend ce qui se passe, même si on a pris une claque, mais quand j'ai compris pourquoi j'ai pris la claque, je suis content. Et d'un autre côté, pourquoi il était triste? Bah, il était triste parce que maintenant il comprenait encore plus la gravité de la destruction de Beth Amikdash. Et donc, il raconte que, au même moment, il avait d'un côté de son cœur, la tristesse, et de l'autre côté de son cœur, la joie. La schizophrénie, ça. Pas possible. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? De là, on avait expliqué dans le chapitre 34 que l'âme est capable d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps, sans aucun problème.
Voilà, donc pourquoi on dit depuis deux cours que c'est pas possible?
Attends, on va y arriver, c'est bon. Non, on a expliqué, depuis il y a deux cours, on a expliqué que lorsqu'une personne commence à faire teshuvah, je t'explique. On avait expliqué que lorsqu'une personne commence à faire teshuvah, on n'a pas un moteur assez fort pour être capable d'avoir les deux en même temps. La tristesse, et juste après tu passes à la simcha. On n'arrive pas. Surtout quand on démarre. Ça n'arrive pas. Si tu fais les deux en même temps, tu vas casser, ça ne va pas tenir. Lui, ça arrête. Dès qu'il a la tristesse, il fait tomber une personne. Mais après, ça va revenir. C'est sûr, ça va revenir. Parce que même si, quand je fais ma teshuva, c'est simcha, simcha, simcha. Mais après, avec le temps. ça va revenir. Je me rappelais de ce qui s'est passé en arrière.
Je peux pas s'empêcher
d'y penser. Donc ça va revenir. À un moment, il faudra bien y penser. Il faudra bien faire tes chouvas sur ça. Ok. Alors.
On parle essentiellement de nos fautes pour la tristesse.
Oui, bien sûr, on parle de nos fautes. Alors.
Pas d'extruction du bête amigdale.
Non. Enfin, c'est un exemple. C'est un exemple pour dire que. Là, c'est un exemple pour dire qu'on est capable de penser, d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps. Où on a vu ça? On a vu ça chez Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il pleurait ou il était joyeux d'après vous?
Ah, les deux.
Non, c'est son fils. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Lui, il avait déjà compris.
Il était triste.
Alors, Rabbi El-Hazar, là-bas, il raconte, il dit que pour son père... Non, pas du tout, c'était que la joie. Pour son père, c'est comme si qu'il n'y a jamais eu la destruction du Beth Amikdash.
Parce
que tellement il était visionnaire, que dans le problème, il voyait déjà la solution. Donc il ne voyait pas le problème, il n'y a pas de problème ici.
Oui, c'était que Ben Simcha, tu as raison.
Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord, mais Rabbi El-Hazar...
Peut-être qu'il n'a pas vu du tout la destruction.
Il n'a pas vu. Le Zohar, il dit que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le Beth Amikdash ne s'est jamais détruit.
C'est ça. Nous, on le voit à notre niveau.
Mais c'est bon là, hein, il dit, Beth Amikdash s'est jamais détruit. Bon, et là on est chez Rabbi El-Hazar. Qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu qu'une personne est capable d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps.
Comme Yitzhak.
Oui, c'est-à-dire?
Il avait les yeux qui pleuraient, mais il était content dans son cœur. Il avait deux sentiments.
Oui, mais c'était pas sur la même chose. Là, c'est sur la même chose. C'est envers la même personne.
Sur deux sens, là.
Mais il pleurait quand il allait se faire sacrifier.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Imagine-toi, tu as quelqu'un, tu vois. Imagine-toi, tu as ton fils qui est là devant toi. Alors, d'un côté, t'es énervé sur lui, et d'un côté, t'es content de lui, en même temps. C'est un petit problème, non? C'est un peu compliqué. C'est soit je suis énervé, soit je suis content. Normalement, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre.
Oui, mais...
Attends, oui. N'oubliez pas qu'on parle d'une tierce personne. On parle pas seulement d'un sentiment intérieur. On parle d'un sentiment envers une tierce personne.
Là, on parle de ça. Oui. Non, on parle pas de raison.
Oui.
Parce que la raison, c'est clairement l'un ou l'autre.
Oui.
Alors qu'au niveau du cœur,
tu peux avoir le sentiment comme ça.
Pour la raison, c'est très facile. Parce que pour la raison, je peux avoir une raison pour un côté, une raison pour l'autre. La raison, il n'y a aucun problème. Le cerveau n'a aucun problème.
Le sentiment, tu peux...
Le problème, c'est les sentiments. C'est ça, en vérité, ce qui bloque le Baal Teshuva. C'est la guerre des sentiments. C'est quelques temps après qu'il a fait Teshuva, forcément, il aura un rappel. Un rappel. Il va se rappeler ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, lorsque le Baal Teshuva fera un rappel de Sa'averot, ben, il aura un conflit entre, d'un côté, la Simcha d'être revenu, et d'un autre côté, la tristesse que la tristesse de son passé. D'accord. Le temps qu'il a perdu, etc. Non mais c'est une frustration générale.
Surtout le temps qu'il sera.
D'accord.
Totalement qu'il a perdu.
C'est pas seulement ça. C'est pas seulement le temps. C'est les Averot qu'il a fait et que maintenant il comprend encore plus la gravité des Averot qu'il a fait et des tâches qu'il a fait dans le monde.
Les conséquences.
De ce qu'il a.
Il est dégoûté. Bon. Donc qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 34? On avait ramené ce que le Zohar disait. Que d'un côté, on peut être Bessimcha, et de l'autre côté, on peut être triste. Donc, en d'autres termes, cette personne-là qui est en train de faire teshuva et qui a un peu de tristesse, on lui dit, écoute, c'est pas parce que tu es triste que tu peux pas être joyeux. Il faut expliquer. Concrètement, comment je peux le faire? Concrètement, dans la vie de tous les jours. Il va rentrer dans les détails. Et c'est ça le chidouche de ce chapitre. C'est qu'il va rentrer dans les détails, il va nous expliquer comment une personne est capable de voir deux choses en même temps qui se passent dans sa tête. Extraordinaire. C'est ce qu'on appelle dans beaucoup d'endroits, on appelle ça Makom Yeshberosh Leaniyar. Ça veut dire que dans la tête, on est capable de penser et d'avoir deux sentiments contradictoires sans aucun problème. Après, c'est une question de est-ce qu'on est prêt ou pas. C'est ce qu'on va devoir développer aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire. C'est la force du sechel d'un homme. Ce qui n'est pas chez un animal, bien sûr. Hein. Le sechel d'un homme, le cerveau d'un homme, est capable d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps sans aucun problème. Ça pas de problème, il avance, c'est pas de problème. On va expliquer comment. Alors, donc il continue dans les mots. Je vais rappeler brièvement ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 34, et on va expliquer le chidouche de ce chapitre. Ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 34, en deux mots, c'est qu'on avait dit qu'en vérité, pourquoi on peut avoir deux sentiments contradictoires en même temps, puisqu'en vérité, en nous, on a deux entités distinctes. On a une entité qui s'appelle l'âme animale, et une autre entité qui s'appelle l'âme divine. Et donc il y a deux moteurs. Donc tu peux avoir un moteur qui accélère et l'autre qui freine. D'accord? Maintenant, je suis pas en train de dire que...
C'est possible.
Oui, c'est possible. Oui, t'as deux moteurs.
Tu
d'accord. Deux secondes. D'accord, tu as raison, tu dérapes. Mais concrètement, il y en a un qui accélère, l'autre qui freine. Tu as raison, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'est-ce qui va se passer avec la voiture, mais concrètement, tu peux avoir un qui accélère, l'autre qui freine. On est d'accord? Bon. Alors, ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 34, mais qu'on va devoir développer aujourd'hui, parce que vous voyez que c'est très très flou, c'est que, comment c'est possible, c'est très simple. Il dit, pourquoi une personne est triste? Il est triste par rapport à son âme animale, par rapport aux bêtises qu'a fait son âme animale. Pourquoi une personne est bessimcha? Il est bessimcha par rapport à l'avancée que fait son âme divine. Donc, voilà comment on peut être en même temps triste et en même temps content. Et c'est la même chose quand on est en même temps énervé et en même temps content d'une personne qui est en face de nous. Étant donné que la personne qui est en face de moi, elle aussi a deux entités. Elle a une entité animale et une entité divine. Donc je peux être content de l'entité divine, parce qu'il fait des efforts sur un certain point, et énervé sur l'entité animale, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a deux entités distinctes.
Il y a quelque chose qui contrôle au milieu de deux entités là.
Il y a quelque chose qui contrôle. Bien sûr, il y en a, oui, bien sûr. C'est moi. C'est l'homme qui contrôle. Mais ce que je vais expliquer, c'est que celui qui contrôle, étant donné, moi je contrôle deux entités.
Voilà.
Puisque je contrôle deux entités, en même temps je peux avoir l'âme animale qui regrette toutes les bêtises qu'elle a fait, et en même temps je peux avoir l'âme divine qui est contente que maintenant elle est en train d'avancer vers Akadosh Baruch Hu.
Cette entité là qui contrôle les deux, elle fait partie de quoi?
Cette entité juste elle contrôle, elle fait rien, elle n'a pas de sentiment. Elle.
C'est...
Ça c'est juste elle passe les vitesses.
Elle
D'accord. C'est l'homme, c'est le ratson, c'est la volonté.
C'est
moi. Je contrôle.
Tu
comprends? Tu as la voiture, tu as le conducteur. Là, un conducteur, c'est deux choses.
Comment contrôler le conducteur?
Non, mais je le conducteur.
Est-ce qu'on peut appuyer en même temps sur l'accélérateur et le frein?
Oui, c'est possible.
C'est possible.
Dans la voiture?
Hein?
Mais avec une boîte automatique. Avec une boîte.
Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut? Bien sûr qu'on peut.
Ça fait déraper,
il n'y a pas de problème. Bon, c'est pour ça qu'on le fait pas beaucoup, mais. C'est possible, on peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est deux éléments distincts. Le frein, c'est une chose, un circuit. L'accélération, c'est un autre circuit. Après, la question se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as les deux circuits qui vont s'opposer l'un à l'autre? C'est une autre question. Mais c'est possible. D'accord. Donc la même chose. J'ai l'âme divine et j'ai l'âme animale. L'âme divine peut être contente d'avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Et l'âme animale, à un certain moment, elle fait un flashback sur ce qui se passe en arrière. Elle dit, attends. Dis-moi, j'ai exagéré là, c'est très grave ce que j'ai fait. D'accord. Bon, alors on va avancer.
Mais cette partie qui contrôle les deux, elle fait pas partie de l'âme divine, elle est à part.
Non, c'est celle qui contrôle les deux. Donc, avec ça, juste deux secondes, je voudrais juste finir ce point après avec plusieurs des questions. Donc avec ça, ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 34, c'est que lorsqu'une personne est en train de faire teshuva, il peut avoir les deux sentiments en même temps. D'un côté, donc on va dire par exemple 6 mois après qu'il a fait cette échouva, ou 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans après avoir fait cette échouva. Ça lui revient. D'accord, ça lui revient. Pas du tout, ça revient. On n'a aucune idée quand ça revient. Ça finit par revenir. D'accord? Ça ressurgit. Ça revient. Alors à ce moment-là, il aura deux sentiments en même temps. D'un côté, il aura une simcha, une joie. De quoi il sera bessimcha? Il sera bessimcha concrètement aujourd'hui. Il est religieux? Aujourd'hui, il avance.
Aujourd'hui.
D'accord. Aujourd'hui, il est soumis à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il sait où il va. Donc, il est Bessimra. Mais d'un autre côté, par rapport à son âme animale, il aura une tristesse. C'est quoi la tristesse qu'il aura à ce moment-là? Il aura une tristesse qu'il est dégoûté. Il est dégoûté qu'il est loin du compte. Alors, encore une fois. Je sais qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, j'attends la question de David, qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir les deux sentiments en même temps. C'est pour ça que j'explique que là on parle pas d'une personne qui va faire exprès à penser à sa vérote. On parle quand des jours, des mois, des années plus tard, il va repenser à son passé. Et c'est sûr que ça arrivera.
Je veux dire qu'on l'a vécu, ça, de toute
façon. Certainement.
Ce qu'il dit là de Mourazaken.
Certainement. Hein. D'accord. On va repenser à son passé. On va dire, mais attends, tu t'imagines comment j'étais? Imagine d'où je viens.
On peut dire quand je pense que je suis triste. C'est le Yétarara qui, à ce moment-là, prend le
corps. Non, pas forcément, non.
Quand je suis heureux, c'est la maître. On a dit que... Mechayil al-Hayil, on dit que... Il y a un moment donné, il y a un maître de la vie.
Oui, mais justement, ce qu'il a expliqué ici, c'est que c'est pas forcément négatif de penser à sa vérote. Le seul problème, c'est est-ce qu'on va savoir comment le faire. C'est pas forcément négatif de penser à sa vérote. C'est même bien, il peut avoir une teshuva de ça.
Si tu contrôles.
Mais le problème, c'est que quand une personne commence à faire teshuva et qu'il pense à sa vérote, il se casse la figure. Parce qu'il c'est trop, il dit bon ça y est, c'est trop dur, laisse tomber.
Il peut être découragé.
Ouais, il dit laisse tomber, ça y est, tant qu'à faire, bon, tant pis. D'accord. Mais si il pense pas à sa vérote, il avance, mais après avec le temps, ça va revenir, c'est sûr que ça va revenir. Il doit bien faire un tikkun sur ça, il doit bien se réparer. Là, à ce moment-là, il sera capable d'avoir en même temps une simcha, d'être maintenant dans le coup, et en même temps une tristesse de ne pas être dans le coup. Maintenant, la Mourazaken, maintenant on a un chidouche, maintenant le chidouche de ce chapitre par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est des éléments qu'on a déjà vus dans le chapitre 34. Maintenant, on va rajouter de nouveaux éléments. Ou Betsirouf, Od Aemuna Vabitachon. Et là, c'est un paramètre très 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 important. C'est que quand on fait teshuva, de manière générale, on réfléchit de manière cartésienne. Ça veut dire, j'ai fait une avéra, j'ai fait teshuva, d'accord ? J'ai fait telle teshuva, donc Dieu va me pardonner. Et qu'est-ce qui se passe après avec le temps ? Après, avec le temps, je me mets à réfléchir, je me dis, finalement, la teshuva que j'ai fait par rapport aux avérotes que j'ai fait, bon, c'était un peu léger, quoi. Par rapport aux avérotes que j'ai fait, il faut une big teshuva. Peut-être, c'est pas faux. C'est une réflexion qui n'est pas fausse. D'accord ? C'est une réflexion qui n'est pas fausse, c'est-à-dire que si on réfléchit de manière cartésienne, de manière logique, de manière structurée, c'est vrai que la teshuva que j'ai fait ne suffisait peut-être pas. Et là, va venir un paramètre très important que le Morazaken nous exige. C'est le paramètre de la emuna et du bitachon dans la teshuva. Avoir la emuna et le bitachon que ma teshuva a été acceptée et que j'ai fait une bonne teshuva. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce que le Yetzirah viendra toujours pour m'expliquer avec des bons arguments que je n'ai pas fait une bonne teshuva. Et c'est pour ça qu'on devra faire appel à la emuna et au bitachon, ça veut dire ce qui n'est purement pas logique, pour dire non, je voulais bien faire, certainement que Dieu m'a aidé et j'ai bien fait. D'accord ? Donc ça, c'est un nouveau paramètre. C'est un paramètre très important dans la teshuva. Mais ça, c'est un paramètre qu'en général, on n'a pas besoin de faire appel à ce paramètre au début. Quand on commence à faire teshuva, on a les moteurs bien allumés, en général, à ce moment-là, on n'a pas besoin de la emuna. À ce moment-là, on est heureux d'avancer vers un kadosh baruch hu, c'est pas à ce moment-là. C'est plus tard, quand on commence à se poser des questions sur la teshuva. Qu'on se dit, est-ce que finalement j'ai fait teshuva ? C'est là qu'on va devoir avoir une emuna et de dire, je voulais bien faire, certainement que j'ai bien fait. Bien que la logique dit que peut-être j'ai pas bien fait, peut-être j'ai pas assez fait. On doit avoir la emuna et le bitachon. D'accord ? Donc on va développer ensemble. Ou bet siruf od a emuna ve a bitachon. Donc on a déjà expliqué une fois, je crois, je ne sais pas au cours de Tania, c'est dans un autre cours, la différence entre la emuna et le bitachon. C'est quoi la différence entre la emouna et le bitachon ? D'accord ? La emouna, différence entre la emouna et le bitachon, c'est très simple. C'est que quand j'ai la emouna, ça veut dire que je crois que j'ai la croyance que tout va bien se passer, mais c'est pas pour autant que je ne suis pas angoissé. C'est un cours de jeudi matin, si je ne me trompe pas, qu'on avait expliqué. Ça veut dire que par exemple, une personne qui a un malheur qui lui tombe sur la tête, Dieu préserve. Mais il a la emouna. C'est-à-dire quoi, il a la emouna ? Ça veut pas dire qu'il est persuadé que le malheur va passer. Non. Ça veut dire qu'il est croyant. D'ailleurs, on l'appelle un homme croyant, et que même s'il se prend une claque sur la tête, il va, même si je prendrais une claque, je suis croyant que c'est pour le bien, c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. D'accord. Ça c'est la emuna. D'accord. Bon, ça c'est assez facile et c'est assez basique en vérité. Le bitachon, c'est plus fort que ça. C'est quoi le bitachon ? Le bitachon, c'est que lorsqu'il a une claque qui est en train de lui tomber sur la tête, il est persuadé que ça ne sera pas une claque. Qu'il n'y aura pas de claque.
Il est persuadé qu'il n'y aura pas de claque.
Il n'y aura pas de claque. Bitachon. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'il dit, bon, certainement, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Mais que bon, j'ai pris une claque quand même. Non. C'est qu'il dit, je suis persuadé, j'ai le bitachon. Bitachon, c'est un mot botéar. Botéar, c'est-à-dire une assurance. J'ai l'assurance. C'est quoi l'assurance ? Quelqu'un qui est sûr de soi. Je suis sûr de moi que ça va bien se passer. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est deux éléments qu'on va devoir faire appel après la teshuva. Numéro 1, la emouna. Numéro 2, le bitachon. Numéro 1, la confiance. Avoir confiance en Dieu. Écoute, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné la teshuva, les clés de la teshuva. J'ai fait teshuva, donc j'ai confiance que certainement que j'ai fait une bonne teshuva. Mais c'est pas seulement la confiance, l'assurance. Faut être sûr de soi. Pourquoi ? Excuse-moi deux secondes. Parce que le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de semer le doute chez la personne. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, écoute, tu sais, ça fait une teshuva, mais bon, ta teshuva, elle était un peu légère. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va manquer d'assurance. Et c'est là qu'est venu le rôle du bitachon. Pour avoir de l'assurance, pour dire non, j'ai fait une bonne teshuva. Je dis non et ça, j'ai fait une bonne teshuva. Ça c'est le bitachon. Et donc ça c'est un paramètre qui n'est pas du tout logique. C'est-à-dire c'est possible que selon les règles de la logique, j'ai pas de réponse à donner et ça. Mais je vais développer un nouveau facteur qui s'appelle la emuna et le bitachon, qui est très important de développer dans le cadre de la teshuva, comme ce qu'on va expliquer. Alors avant d'avancer, on avait des questions. Raphaël, c'est répondu, d'accord?
Jacob. On a vu dans le Tania précédemment que ces qualités de emuna, ça venait d'Abraham Avinu.
Oui.
D'accord. Mais cette qualité de bitachon, d'où ça vient ? C'est une mida, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille ?
Bien sûr, ça se travaille.
Et ça se travaille comment ?
Quand il arrive des...
Les mounas, ça se travaille pas. Tu l'as ou tu l'as pas ? On est bien d'accord.
Oui. Bon. Ça se travaille dans la tête ? Dans la tête ?
Oui, mais attends. Il y a quelque chose qui est pas normal dans le bitachon. Il y a quelque chose qui est pas net. Autant les mounas, je comprends.
Il y a presque un mensonge que tu fais.
Non, pas du tout. Attends, c'est tellement j'ai confiance en Dieu. que j'ai l'assurance que ça va bien se passer.
D'accord. Non, je suis désolé.
Non, mais je suis désolé. C'est pas la différence, c'est pas ce que t'as dit. Non. La différence, c'est presque que c'est pas arrivé.
A priori et a posteriori.
Oui. Non, ça veut dire que ça n'arrivera. Il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de problème.
Oui, mais ça pose un
problème. Il y a un problème, mais c'est pour mon bien.
Mais ça pose un problème, c'est-à-dire que si quelqu'un il a fait des avérotes et qu'il pense que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et que HM.
Non.
Comment tu peux avoir bitachon?
Là, on parle du bitachon que j'ai fait une bonne teshuva. C'est ça ce qu'on va expliquer ici. C'est la bitachon, si je me pose la question, est-ce que Dieu m'a pardonné? Ça, c'est une question aussi globale. Est-ce que Dieu m'a pardonné?
Ça permet de réponse.
D'accord, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu t'aurais dit? Tu crois que Dieu t'a pardonné? Tu rêves. T'as rien fait pour que Dieu te pardonne. Et c'est là que va intervenir la Emouna, le bitachon, pour dire, j'ai l'assurance que Dieu m'a pardonné. Et là, tu écrases le Yetzara.
Je vois pas pourquoi la croyance, c'est pas si sûr, dans la Emouna, je suis dégoûté,
j'ai pris une claque, je suis dégoûté. Mais comme je suis croyant, donc je dis bon, je suis croyant, donc j'accepte.
Et alors, d'accord. Réponse, ce serait pas supérieur.
Le bitachon, c'est encore plus fort. C'est que j'ai l'assurance que ça se passera bien. Il n'y aura pas de claque, il n'y aura rien du tout.
Ouais, mais c'est un manque d'humilité en même temps.
Non,
mais en même temps, ça manque. Non.
C'est que tu as une émouna tellement forte, tu as une confiance tellement forte que tu as l'assurance que ça va bien se passer.
Bon, bah alors prends un cas concret.
Ça veut dire.
Comme tu dis, voilà,
un cas concret.
Quelqu'un a une épreuve. C'est concret, tu ne peux pas dire que ça n'existe pas.
Alors, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, ça peut s'arranger.
Il y a des choses qui s'arrangent.
Celui qui a la Emouna, il dit bon, Minashamaim.
Minashamaim.
Ça, c'est Emouna, ça, tu vois. Il dit, j'ai pris une claque, je vais tomber par terre. Mais bon, Minashamaim. Celui qui a Bitachon, il dit, Bezrat Hashem, ça va s'arranger. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'un, il voit gris, l'autre, il voit blanc. Il voit blanc, tout va s'arranger. Un, il voit noir. Et il voit noir, c'est l'obscurité. L'autre, il voit blanc, il dit, tout va s'arranger, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il est dans la négation. Ça veut dire qu'il a une tellement grande émouna à Kadosh Baruch Hu qu'il est sûr que ça va s'arranger. Et on dit que dans plusieurs endroits, c'est écrit, et beaucoup de sirot du Rabbi sur ça, enfin plein de textes comme dans la Gemara, qui dit que le bitachon a une force d'annuler une gzira. Quand un juif, il montre à Kadosh Baruch Hu qu'il est sûr que ça va s'arranger, Dieu, quelque part, il dit, ben, on n'a pas le choix, on est obligé d'arranger. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il est obligé de faire tomber la gzira, et qu'il n'a pas le choix, et que...
Il a tombé sur quelqu'un.
Non, pas du tout. Et que la personne a la bitachon, il va tout me faire en œuvre, il va tout mettre en œuvre pour affaiblir le bitachon de la personne. L'assurance de la personne, pour lui mettre le doute. Sinon, il n'arrive pas. Parce que quelque part, kaviachol, Dieu est pris à son propre jeu. C'est-à-dire que tant que la personne a le bitachon, Dieu ne peut pas se toucher, il est intouchable.
Et messieurs, prenez des notes. Hein, parce
que... D'accord. Dès que... Mais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va lui envoyer juste un brin de doute. Et dès qu'il a un brin de doute, ça y est, c'est fini, on peut le rentrer dedans.
Il t'a donné un des 6 prochains numéros du tour. C'est-à-dire qu'il te manque 5
C'est ça, c'est comme dans la boxe, hein. Bon. Alors, au Betsirouf, Oda Emouna. Donc voilà, ça c'est le chidou du chapitre d'aujourd'hui qu'on va développer.
On l'a ou on l'a pas?
Non, il dit ça se travaille.
Ça se travaille.
Après, tout le monde a une qualité, cette qualité-là, mais plus ou moins. Mais comment ça se travaille?
Voilà, en venant à des cours, en comprenant, avec le temps tu comprends.
Des cours, il a
une... Avec le temps, quand tu te prépares, et que quand, tu comprends.
Il y en a, ils sont suicidés après les cours.
Pas du tout.
Ton esprit.
Quand ton esprit comprend. Quand tu comprends, quand t'as une émouna, t'as une émouna tellement forte en Akadosh Baruch Hu, que cette émouna a pris une forme concrète. D'accord? C'est comme l'exemple qu'on avait amené il n'y a pas longtemps de la Gemara, du voleur, qui avant de voler,
oui.
Il prie à Dieu.
Oui, la émouna.
Non, attendez, non, c'est juste que l'émouna. Non, c'est pas l'émouna. Il a Bitachon, il dit, mais Dieu, il va m'aider.
Ça va pas, je comprends, ça va pas, il se la coule. Mais ça va pas. Soit c'est un idiot, je comprends, mais si c'est pas un idiot, il a fait des
erreurs. C'est qu'il a une émouna tellement grande, seulement là, il a mal utilisé.
Parce que pour lui, c'est son derrière.
Tu sais, Yaakov, quelqu'un qui est sûr de gagner, il gagne.
Quelqu'un qui est sûr de gagner,
il gagne à tous les coups.
Au début de la victoire,
c'est sûr. Peut-être pas tout de suite, mais il finira par gagner. C'est sûr à 1000%. Tous ceux qui voulaient gagner ont gagné.
Quelqu'un qui est combattu,
c'est comme ça.
Ils ont gagné quoi?
Ils ont gagné ce qu'ils voulaient.
Verico.
Oui, mais ce qu'ils voulaient, c'est pas forcément ce qu'il fallait.
D'accord. Mais ça veut dire que quand on veut gagner, on gagne.
Or la Emouna, c'est de dire que...
On passe. Si tu veux gagner, tu gagnes. Tout est dans la volonté.
Ce que je veux, c'est ce qu'il faut que Hachem... C'est ce que Hachem, il veut. Et quand t'as l'Emouna, ce que...
D'accord.
Mais c'est pas forcément ce que je veux, moi.
Tu as raison, d'accord.
Donc c'est bizarre, c'est bizarre, je veux dire.
Pourquoi c'est bizarre? Là, on va expliquer. Là, maintenant, on essaye de se rassurer. Après avoir fait la teshuva, rappelez-vous, on a maintenant le Yitzhara qui vient pardonner, qui te dit, oui, mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Donc je lis dans les mots. Ubetsiruf od emuna. À tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre 34, comment le cerveau est capable d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps. D'un côté, une simcha qui provient de l'âme divine, je suis content d'avoir fait teshuvah. Et d'un autre côté, une tristesse qui provient de l'âme animale, qui je suis dégoûté, je suis frustré de la vérote que j'ai fait. En plus de ça, il faut rajouter un nouveau paramètre qui est le bitachon. Quoi, ça, on est ici en train de faire une affaire? C'est une affaire qu'on est en train de faire? C'est avec Akadosh Baruch Hu qu'on parle. On doit avoir le bitachon que si je voulais bien faire et que j'ai voulu faire teshuvah, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu m'a aidé. Je suis pas en train de faire un inventaire d'une affaire et que là, je dis bon, peut-être que j'ai pas assuré. J'ai voulu bien faire, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu m'a aidé. Liot nachon libo batuar bashem. Il a des termes très forts. Nachon libo batuar bashem, ça veut dire son cœur doit être fixé. Fixé. Nachon, c'est-à-dire fixé. Vous savez ce que c'est-à-dire avoir le cœur fixé, ça veut dire je bouge pas, je suis sûr que j'ai compris. Je dois avoir le cœur net. Batuar bashem, avoir le bitachon en Dieu, avoir l'assurance qui rafet chesedou. Que Dieu veut le bien. Pourquoi toujours il y a des gens, quand ils s'imaginent Akadosh Baruch Hu, ils voient Akadosh Baruch Hu comme un père qui veut frapper ses enfants et qu'au moindre coup, il dit « Ah, mais tu sais, la dernière fois, t'as pas assuré. » Mais non ! Dieu veut le bien de ses enfants. Et quand il voit que son fils, il veut s'excuser, c'est clair que le père a aidé son fils à s'excuser. « Vechanun verachum » et c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux et qu'il est gentil. « Verav l'histoire » et qu'Akadosh Baruch Hu fait tout son possible pour pardonner. « Tekafumiyad » tout de suite. Parce que c'est qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire oui, Dieu, attends, il finira par pardonner. Mais attends, il t'a pas encore pardonné. Non.
C'est pas
il faut avoir l'assurance qu'il faut dire au Yitzhara, je voulais faire teshuvah, j'ai fait teshuvah, Akadosh Baruch Hu attendait ma teshuvah, il m'attendait, il m'a pardonné tout de suite. Tekefumiyat, shemevakesh, mechila ou slicha meito. Dès que je demande à Akadosh Baruch Hu de me pardonner, mechila ou slicha, d'accord ? Bon, donc on expliquera dans la suite la différence entre mochel et soleach. C'est deux formes de pardon. Dès que je demande à Kadosh Baruch Hu, tout de suite à Kadosh Baruch Hu m'a déjà pardonné. Et je dois avoir l'assurance que ça s'est passé comme ça. Sinon, on n'avance pas. Sinon, si à chaque fois on revient, on dit, mais est-ce que je suis vraiment sûr que tu m'as pardonné? Est-ce que je suis vraiment sûr que j'ai fait une teshuvah? C'est fini, ça arrive à mettre par terre. Je dois être persuadé que je voulais faire teshuvah, Dieu a accepté ma teshuvah. D'accord? Et je dois pas rentrer dans ce piège. Il amène des preuves de verset. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu attend notre pardon, et qu'il fait tout pour nous pardonner, et que dès qu'on veut se faire pardonner, il nous pardonne et il nous encourage à se faire pardonner. On a plusieurs versets. On a d'abord le verset, la référence numéro 1, des psaumes de la Teshuvah, c'est le psaume 51, Nun Aleph. On a trois versets dans ce psaume qui parlent de la Teshuvah. Et dans ces trois versets, c'est toujours une constante, on va toujours avoir la même chose qui revient, le même élément qui revient, c'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous purifie rapidement. Première référence, c'est Kerov Rachamecha Mecheb Sharai. Première référence, dans ce psaume-là, on demande à Akadosh Baruch Hu Kerov Rachamecha, tellement ta miséricorde est grande, Mecheb Sharai, ça veut dire efface mes fautes. Pourquoi je demande à Akadosh Baruch Hu tellement ta miséricorde est grande? Mais je comprends, si je demande pardon, pourquoi je fais appel à la miséricorde? Et pourquoi je dis que Kadosh Baruch Hu est particulièrement miséricordieux? De là, on comprend quoi? On comprend qu'en vérité, on a affaire ici, qu'en vérité, on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que peut-être je ne mérite pas le pardon. D'accord? Mais en vérité, je dis à Kadosh Baruch Hu, certainement, que si je t'ai demandé pardon, Kerov Rachamecha, tellement tu as une miséricorde, Mecheb Shai, tu as effacé les fautes. Ça veut dire quoi, effacer? Effacer, ça veut dire qu'on n'en reparle plus. C'est pas, on dit bon, on met de côté, on en reparle plus tard. C'est ça, Mecheb Shai. On a encore une autre référence dans ce même psaume. On demande à Kadosh Baruch Hu Kapseni Tahareni. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous laver et de nous purifier. Ça veut dire quoi laver et purifier? C'est quoi la différence entre laver et purifier? Quand on dit laver, bon, c'est à dire que je me suis lavé, mais qu'il reste encore un peu de saleté, mais que bon, maintenant ça se voit plus. Quand on dit purifier quelqu'un, ça veut dire quoi purifier? Ça veut dire qu'il reste plus de traces. Et quand on fait teshuvah, on doit avoir l'assurance. On doit être persuadé qu'Akadosh Baruch Hu nous a purifié de nos avérances. Et qu'il n'y a plus, de traces, ça y est.
Alors quel intérêt d'accord de repenser à...
Non. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai une frustration et que je veux vouloir avancer. Mais à aucun moment, je dois me dire que Dieu n'a pas accepté ma teshuvah. C'est ça le nouveau paramètre d'aujourd'hui.
D'accord, alors pourquoi on doit repenser à nos fautes?
Non, toi tu vas repenser au Averroth que j'ai fait, et comment je peux rattraper le temps perdu, etc. Donc il y a une certaine frustration, ça c'est pas grave. D'accord? C'est une frustration, c'est normal. Par exemple, tu dis, bon, j'ai fait tes chouvas, j'avais 35 ans, j'avais 40 ans. Et tu dis, bon, j'ai 40 ans de retard, comment je peux rattraper ces 40 ans? Bon, c'est pas forcément négatif ça.
Donc c'est chaud.
Non, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire que tu vas dire, bon, j'ai du pain, il y a du pain sur la planche. Mais par contre, si Chas V'Shalom à un certain moment, c'est le nouveau paramètre d'aujourd'hui, le tsar va dire, mais tu crois comme ça, on fait chouva, comme ça, en un mois, deux mois, on fait tes chouva. Tu rêves ou quoi? C'est un travail des années. Ça travaille de dizaines d'années, c'est pas comme ça qu'on fait tes chouvas. Il te faut au moins autant d'années que ce que tu as pris pour fauter. Comme ça, il te prend l'état. D'accord? Il n'y a pas de pression chez nous. Tu lui jettes l'état, tu lui dis, écoute-moi bien. Je suis rentré chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné, dehors. On rentre même pas dans ce calcul. Vous savez, il a des mots très forts, là. D'accord? Ferme! Encore une fois, un troisième verset dans le psaume 51. Vechol avonotai meche. Qu'est-ce qu'on dit dans ce fameux psaume 51? On dit, Vechol avonotai meche, tous mes averot effacent. C'est-à-dire quoi toutes mes averot? Toutes! C'est-à-dire quoi toutes? Toutes sans exception!
Même les prochaines.
Ça veut dire que je dois avoir la emuna et le bitachon, Kadosh Baruch Hu m'a pardonné. Blishum safek, ou sfek sfeka barolam. Sans aucun doute, et le doute d'un doute. C'est comme en français on aurait dit, sans l'ombre d'un doute.
Sans le moindre doute.
Sans le moindre doute. T'as vu, il a eu des mots, vraiment, il a répété de tous les angles possibles. D'accord? Et il a dit, je dois être fixé à l'assurance, la Emouna, le Bitachon, que Dieu attend des Mateshuva et qui m'a pardonné, sans avoir aucun doute, et le doute d'un doute. D'accord? C'est quoi le doute d'un doute? Ça veut dire, je dis, peut-être que quand même je devrais avoir un doute. C'est ça le doute d'un doute. Il a dit, peut-être je devrais me poser des questions. Sans rien. Dehors. D'accord? Comment il amène des preuves? Attendez, mais de quel droit on parle comme ça? Comment t'es sûr comme ça? Non, doucement. Comment je peux être sûr que Dieu m'a pardonné? C'est vrai, on l'a ramené. Bon, c'est vrai qu'on demande de nous pardonner, mais comment je peux jeter le etara, enfin, je le jette, quoi, je le mets dehors. De quel droit? D'où je sais vraiment que j'ai raison? Alors il amène une preuve. Il amène une preuve que... Grâce au bitachon, lorsqu'une personne est sûre, lorsqu'une personne a le bitachon, Akadosh Baruch Hu fait que cette personne-là, sa teshuva va être acceptée. Regardez ce qu'il va expliquer ici. Kumo shanu vevachim. Vous avez dans les mots? Allez. Alors, kumo shanu vevachim. Je vois qu'il y a un cours parallèle. Alors, kumo shanu vevachim, quand on...
Je suis obligé de baisser mon...
Ouais.
Je ne peux pas entendre de manière à part les oreilles qui explosent.
Alors, kumo shanu vevachim, de chol filat, yutret. D'accord?
Je vais baisser du
Ici. Tu veux changer de place avec qui?
Nous on a besoin, excuse-moi, nous on a besoin d'un cours dynamique, on a besoin de ça.
Ça dégoûte avec les oreilles, moi.
Alors.
Non, nous on peut avec le cœur, on écoute.
Moshe anu mevachim, bechol tfilat. Non, parce que maintenant il est plus la Gemara, tu comprends, c'est... Il est devenu...
Salut les Sarah. Voilà, c'est ça, les Sarah. Je te balaye.
Alors.
T'as rien dit.
Ah, t'as écouté quand même.
Ouais, j'écoute, ouais.
Alors, « Kmo shanu mevachim bechol tfilat, bechol tfilat yutret. » Donc, comme on fait la bracha dans chaque tfilat yutret, sur chaque amida, d'accord? Chaque tfilat shmoné esrei. « Tekef shemevakshim slachlan ukhule. » Dès qu'on demande, quand Tekef, tout de suite après, « shemevakshim slachlan ou. » Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bracha dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. D'accord? Bon, ben tu l'as demandé, peut-être qu'il va dire oui, peut-être qu'il va dire non, attends, ça va prendre du temps. D'accord? Tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, tu es béni Hashem. Hanoun, celui qui est miséricordieux. Amarbe il floach, celui qui n'arrête pas de pardonner. En d'autres termes, il m'a déjà pardonné. Attends, tu es si sûr que t'as pardonné?
Sourd de douter.
D'accord?
C'est une bracha
levatala. Ben oui, c'est bracha levatala, là. Comment je peux dire Baruch ata Hashem? Comment je peux dire, Baruch, tu es béni Hachem, je fais une bracha, tu m'as pardonné, je t'en prie Dieu, pardonne-moi, Baruch at Hachem, tu m'as pardonné.
Non, c'est lui qui...
D'accord, celui qui donc en d'autres termes, je sous-entends, il m'a pardonné.
Ah oui.
Mais attends, bien sûr, mais c'est...
Il pardonne.
Mais attends, bien sûr, il y a un problème là. Ça veut dire que je suis tellement sûr de moi que quand j'ai demandé à Kadosh Baruch de me pardonner, il m'a pardonné, que je peux me permettre, 3 secondes plus tard, de dire, Baruch at Hachem, tu es béni Dieu, Hanoun, Amar Belislor, tu pardonnes toujours. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'attendre sa réponse, peut-être ça prend un peu de temps, rien du tout. Ça c'est une preuve que quoi ? Une preuve de ce qu'on vient d'expliquer ? D'accord ? C'est une preuve de ce qu'on vient d'expliquer !
Je vis ta faute. Tu m'entends ?
Si t'as dit ta faute.
Alors, c'est une preuve de ce qu'on vient d'expliquer que quoi ? Que var et safek brachot leakel ? On sait que si on a un doute sur une bracha, on ne la fait pas. Pourquoi ? Mishum chash bracha levatala. C'est très très grave de dire une bracha en vain. D'accord ? Dire une bracha en vain, c'est très très grave. Alors, c'est une variante, enfin, c'est pas exactement un des 10 commandements. Dans un des 10 commandements, on nous dit qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Dire une bracha pour rien, c'est très très grave. Moi, maintenant, une personne, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On a ici affaire à une personne qui fait une bracha. Elle est en train de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il fait comme bracha ? Il fait une bracha, Baruch Ata Hashem, Chanun Amar Ben Yisroel. Attends deux secondes. Tu bénis Dieu qui t'a pardonné, et s'il t'a pas pardonné ? Si j'ai un doute, ça fait brachot, je dois faire la bracha. Par exemple, j'ai un doute, est-ce que j'ai fait Shakon Yamidvaro ? Alors, et voilà, j'ai un café, j'ai un doute, est-ce que j'ai fait Shakon ? Je refais pas. Pourquoi ? Parce que ça fait brachot laquelle ? Alors là maintenant, si j'ai un doute, est-ce que Dieu m'a pardonné ou pas ? Ben, je fais pas la bracha. Je peux pas dire Dieu m'a pardonné. Je peux dire Dieu me pardonnera. Je peux pas dire Dieu m'a pardonné. Ou Dieu me pardonne.
Je pardonne.
Parce que Hanoun Hamar Belisloar, c'est encore plus fort. C'est au présent. C'est-à-dire Dieu me pardonne tout de suite, il m'a pardonné.
D'accord ? On parle des
chants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous prouvez à l'Admour Azakan ici, c'est quoi ? C'est qu'il y a strictement aucun doute, d'accord ? Qu'une fois que la personne a pris sur soi de faire teshuva, Akadosh Baruch Hu a accepté cette teshuva. À tel point que je suis tellement persuadé que ma teshuva a été acceptée, que je peux me permettre une seconde plus tard de dire, Baruch Ata Hashem, tu es béni Hashem, d'accord ? C'est-à-dire que je suis à 100% sûr, parce que sinon je n'aurais pas fait la bracha. Hanun Hamar Belisloar, tu es miséricordieux et tu n'arrêtes pas de pardonner.
Pourtant,
De là on voit quoi ? De là on voit que je n'ai aucun doute, strictement aucun doute, que lorsque je voulais me faire pardonner, Akadosh Baruch Hu m'a pardonné. Ça c'est la première phrase que va venir la Dmourazaken, sur que je dois être sûr à 100%, parce que si je n'étais pas sûr à 100%, je n'aurais pas pu faire la bracha. Baruch Ata Hashem, Chanun Hamar Belisloar, ça fait brachot lakel. Quand il y a un doute sur une bracha, on doit être méquille, on ne doit pas faire la bracha.
Et qui pour ?
Et là seulement, deux secondes. Shen kan shum safek klal. Il y a ici aucun doute. Comme explique le commentaire, ils disent que normalement, à la limite, on aurait dû dire au moins Baruch Chanun Hamar Belisloar. Ou bien Baruch Ata Chanun Hamar Belisloar. Sans dire Baruch Ata Hashem. On a des fois des brachot dans lesquels on dit Baruch. D'accord, Baruch, dans lequel on dit pas entièrement la bracha. On dit pas Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Par exemple, selon le Minhag des Ashkenazim, la bracha que le père du bar mitzvah, il fait le jour où le bar mitzvah, il a 13 ans. Donc, chez les Sfaradim, on dit Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Sheftaranu, Mona, Shalazé. Le père remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir rendu quitte de cette punition. C'est pas que c'est une punition, mais c'est que jusqu'à présent, le père était responsable de la véra de son enfant. Alors, chez les Sfaradim, on fait avec Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ça, c'est chez les Sfaradim. Chez les Ashkenazim, on dit Baruch Sheptaranu Menach Elazé, sans le Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Pourquoi ? Parce que bon, c'est une autre question, parce qu'il y a un doute de manière halakhique, est-ce qu'on a le droit de la faire cette bracha ou pas ? Donc, c'est pour ça qu'on dit pas le Ata Hashem Elokeinu. Donc, à la limite, cette bracha-là, si je suis pas sûr à 100% que Dieu m'a pardonné, j'aurais pu dire Baruch Chanun Hamar Belisloar. Pas Baruch Ata Hashem. Quand je dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire que je suis sûr à 100% de ce que je suis en train de dire, et qu'il n'y a aucun doute. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sûr sans l'ombre d'un doute que Kadosh Baruch Hu m'a pardonné.
Pareil pour la richesse.
D'accord ? Pareil pour ?
Pour la richesse, pour la refoua, pour toutes les brachot.
Alors ça dépend si Kadosh Baruch Hu le dit. Ça dépend si dans la Amida on le dit au futur ou si on le dit au présent. Ça change tout.
Donne-moi une qu'on dit au.
En général, on dit au futur.
On dit Yerushalayim.
Oui, pareil, ben c'est vrai, c'est pas faux. Il est en train de construire Jérusalem.
Oui, non, mais
partout, on a tout expliqué. Non, c'est vrai.
Sur la bracha de l'année,
bénis-nous.
Oui,
d'accord. Après, Mevarech Hashem, celui qui bénit les années. Bon, c'est un terme générique.
Alors, pourquoi là, je serais censé penser qu'il bénit de manière
générique? Ah ben non, mais attends, parce que...
Là,
parce que là, là, je suis en train de... Parce que là, je viens dans la même bracha dans laquelle je viens de demander à Kadosh Baruch Hu de me pardonner. Normalement, quand je demande pardon à quelqu'un, il doit avoir un laps de temps. Je dois lui demander pardon. Je vais laisser le temps de réfléchir, qu'il réfléchisse, et que moi, si je réfléchisse à la gravité de ce que j'ai fait, et après on discute. Là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucun laps de temps. Tout de suite, Dieu m'a pardonné. C'est ça ce qui interpelle Admour Hazaken. C'est que tout de suite après que j'ai demandé, même pas dans le Hachamnou après, tout de suite après que je demande à Kadosh Baruch, s'il te plaît pardonne-moi, tout de suite je dis oui, et il pardonne. Attends, doucement. Baruch attaché en plus. De là, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que pourquoi tout de suite je dis Baruch Hanun à Marvel l'histoire. Ça veut dire que je suis persuadé qu'à Kadosh Baruch Hu, quand je veux, c'est quand, si je fais une vraie teshuvah, Kadosh Baruch Hu m'a déjà pardonné. Et c'est clair. Et qu'il y a aucun, il y a pas l'ombre d'un doute, c'est pour ça que je peux me permettre de faire, c'est pour ça que je peux me permettre de faire une bracha dessus. Yaakov, vous avez une question?
Oui,
sans crier, s'il te plaît.
Quand j'arrive, oui, je t'en. Quand j'arrive les fêtes de Kippour, on fait Techaninim, on fait les Sichot. Un mois avant, après il y a Rosh Hashanah, après ça dure longtemps, et on rajoute des petites filotes, et après il y a les 10 jours, et on rajoute de la Torah, okay. Et après il y a Kippour, et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si Hashem veut nous pardonner, on ouvre le, après il y a la dernière prière, etc.
Bon.
Et alors, si ce que tu dis c'est vrai, on a besoin de faire tout ça.
Pourquoi?
Parce que, ça y est, on est persuadé que Hashem nous a pardonné.
Oui, il faut le dire, journée, il faut le dire.
Attends, je vais filmer. Non mais attends, c'est pas directement je dis pardon Dieu il m'a pardonné.
Mais en plus, non. Et pourquoi tu fais la mida trois fois par
Parce que j'ai dit, du tout.
Ça n'a rien à voir la mida.
C'est sûr, c'est la raison. La raison. Pourquoi je fais trois fois par jour la mida? Mais pourquoi c'est comme ça?
Parce qu'Abraham le matin il est sorti.
Ah ouais Abraham, mais moi trois fois par jour je demande pardon.
Mais s'il m'a pardonné une fois, moi j'ai besoin de demander.
Tu parles quoi, de la mida ou de
la mida?
La mida, c'est la tuila la mida, non?
Tu demandes.
Oui, la raison
le matin et l'après-midi.
C'est un bon exemple. Non mais attends, il va en parler tout à fait là. Ah je le rappelle, ouais, trois fois par jour je le rappelle. Je n'oublie pas, je te demande pardon.
Entre le matin et l'après-midi, tu veux pas
le rappeler.
Mais pourquoi je lui demande de pardonner s'il m'a déjà pardonné le matin?
Pour le soir, c'est
le matin et l'après-midi.
Ah. C'est-à-dire, j'ai refauté entre le matin et l'après-midi.
Ah oui.
D'accord. Certainement.
Alors fais-le 6 fois la Amida par jour.
Je sais pas toi.
Alors pourquoi on fait pas une Amida à chaque fois que j'ai fauté?
Exactement. Voilà, on pousse tout loin.
Pourquoi pas? Très bien. Shukranao, Rabbi Yaakov.
Voilà, fais 6 fois la Amida.
C'est une bonne question, on va voir dans la suite, tout de suite après. C'est le Morazaka qui va parler de ça. Non, c'est
Yaakov.
Oui.
Preuve,
oui, bien sûr, on va amener notre preuve.
Bah, des... preuve de la Torah.
Que quoi?
Rabbi Yaakov, c'est non, connu, c'est
ça,
c'est film
de la Torah.
Mais
là,
sauf que à part la Mida.
Dans le psaume 51 déjà. Psaume 51, c'est une preuve. Et là la preuve, non, la preuve de la Amida, c'est une preuve qui est halakhique. C'est que halakhiquement parlant, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on n'a pas le droit de faire une bracha. C'est assourd. Si on n'est pas sûr à 100%, dès qu'il y a l'ombre d'un doute, on n'a pas le droit de faire une bracha. Donc il y a un problème. Par exemple, si je suis pratiquement sûr que j'ai pas fait chez Akol, mais je me dis peut-être j'ai fait. J'ai 1%. Pour 1%, je fais pas la bracha. Voilà. Donc là, ça veut dire que si j'avais seulement 1%, si je pensais seulement, j'avais 1% de chance seulement que Dieu ne m'a pas pardonné, j'ai pas le droit de dire Baruch attaché à l'honneur de l'histoire. Et pourtant, je le dis. En tout cas, je dis pas que moi je le pense quand je le dis. Mais en tout cas, ceux qui ont instauré la Amida,
ils l'ont permis.
De le dire. Donc s'ils ont permis de le dire, ça veut dire que pour eux, c'est évident que si une personne fait teshuva, Dieu lui pardonne. Sans l'ombre d'un doute. Il n'y a pas une situation que quelqu'un demande pardon et que Dieu dit non, je n'accepte pas. Mais on va avoir d'autres preuves halakhiques. Parce que justement, c'est ce qu'on va voir. C'est... Des fois, je vais demander pardon à quelqu'un et il me fait comprendre qu'il ne m'excuse pas. Est-ce que ça peut arriver chez Kadosh Baruch?
Oui.
Non. On va voir.
Il a pas pardonné ce moment.
Non, ça peut pas arriver.
Il a pas demandé pardon.
C'est sûr qu'il a demandé.
Non,
pardon.
Non, pas du tout.
Il a dit venir, il a dit
tout, il a pas demandé.
Tous les jours, il y a une voix qui descend du ciel et qui dit revenez vers moi les enfants.
Mais il a pas d'accord, mais il a pas demandé. Non. S'il a demandé, il aurait pu revenir. Il a pas demandé.
Oh, il a pas pensé.
Ilou, donc dans les mots. Ilou, l'ainu chozrim, on a fait un coup de façon, mais c'est pas le sujet. Ilou, l'ainu chozrim, bechotim, ainu nik alimiyad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. C'est un autre cours, on a déjà parlé d'ailleurs. Veilu lo aynu chozri vechotim, aynu nik ali miyad, après le cours avec plaisir. Si on n'avait pas refauté tout de suite après, aynu nik ali miyad, kemo shemevachim, chanu vachim, baruch ata Hashem, goel Israël. Juste après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, tu veni Hashem, goel Israël, celui qui libère Israël. Libère de quoi? D'accord? De quoi? Libérer de quoi? Libérer de nos souffrances. Libérer de nos galères, ça veut dire qu'on est persuadé, pourquoi on le dit au présent, celui qui libère, pas celui qui va libérer, celui qui est en train déjà de libérer. Parce qu'on est persuadé que si on n'avait pas refauté par derrière, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu nous aurait déjà libéré. Géoula individuelle, Géoula générale. Maintenant, la Mourazaken va aller encore plus loin. Donc voilà, donc déjà on a une preuve à l'Afrique. D'où on sait que Kadosh Baruch Hu nous a pardonné, et qu'on ne doit pas avoir l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, parce que sinon, halakhiquement, on n'aurait pas pu dire Baruch Ata Hashem, Chalon Arbel Histoire. Ça, c'est une preuve halakhique. Mais après, deux secondes, doucement, c'est doucement. Après, tu veux que je crie pas, toi aussi, ne crie pas. Alors, après, on a une... Après, on a la Gemara Zaken, après, une deuxième preuve. D'accord ? Toutes les questions avec plaisir, mais après, d'abord, on va finir le raisonnement. Donc, première preuve que la Gemara Zaken, qu'on a été pardonné, c'est que c'est une preuve halakhique. C'est que si on n'est pas sûr qu'on est pardonné, on n'aurait pas pu faire la bracha Baruch Ata Hashem Galis, Baruch Ata Hashem Galis l'histoire. Après, on a une preuve qui n'est pas seulement halakhique, mais qui est une preuve qui est logique que Dieu nous a pardonné. Une preuve, je veux dire, humaine. On va amener un exemple des hommes. On va dire, imagine-toi quelqu'un qui vient et te demande pardon. Tu l'excuses ou tu l'excuses pas? Il a fait une crasse, mais il te demande pardon.
Non.
D'accord? Est-ce que tu l'excuses ou tu l'excuses pas?
Non.
Qu'est-ce que dit l'humanisme? Alors, on va voir ici. Varé. Afilou bemidat basar vadam. D'accord? Même dans la mida basar vadam, ça veut dire des hommes en chair et en os qui sont forcément limités. Et qui ont forcément des sentiments et que c'est très difficile de passer outre un sentiment. Ken, c'est comme ça. Chez tsarich haadam limchol tekafumiyad. Que bien qu'il n'est pas obligé de le faire, mais on lui demande de pardonner tout de suite. Et dès qu'on lui demande pardon, on dit pardonne tout de suite et tu oublies. C'est ce qu'on lui demande de faire. C'est ce que la Torah lui demande de faire. Donc si Akadosh Baruch Hu demande à des hommes de le faire, est-ce que lui peut pas faire la même chose? C'est-à-dire sans même passer par la preuve halakhique. On a une preuve humaine. La Torah nous demande à nous de le faire. Tu dis quelqu'un, il t'a fait une crasse, il vient, il te demande pardon. Tu dois lui pardonner, c'est écrit en Shurah Aruch, on doit lui pardonner Tekef ou Mia, tout de suite. Ça vient de la Gemara. Tout de suite, il faut lui pardonner. La Gemara a dit que celui qui refuse de pardonner est appelé une personne qui est arzari, ça veut dire une personne qui est cruelle. D'accord? C'est de la cruauté. Vous savez, on te dit ne sois pas cruel, les béné Israël sont rachmanim, béné rachmanim, miséricordieux, fils de miséricordieux, donc tu dois pardonner. Pardonne. Et ça, Dieu demande à qui? À des hommes. Va filou bekotea yatravero. Il y a un cas dans la Gemara, Baba Kama. D'accord. Gemara, Baba Kama, non, ça c'est un autre cas. Gemara, Baba Kama, c'est un, même si quelqu'un, il a coupé la main de son ami. Ça y est, dans la Gemara, on dit toujours son ami, hein, même si c'est pas son ami. D'accord. Vous avez quelqu'un qui a coupé la main de son ami. Et qu'après, il vient par derrière, il dit, mais je t'en prie, excuse-moi,
tiens-moi la main. Il lui dit, tiens-moi la main. Il lui dit, tiens-moi la main.
D'accord.
C'est une farce.
Et c'est un cas qui est ramené, c'est ramené où? Qui est Deïta, Bessofer et Kred, Baba Kama. C'est un cas qui est ramené, voilà, ben, Shgacha Pratit, on l'étudie actuellement, on va bientôt finir le 8e chapitre dans la Mishnah de Baba Kama. C'est un cas qui est ramené dans la Gemara de, à la fin du 8e chapitre de Baba Kama. Baba Gemara dit que même quelqu'un comme ça, il vient pardonner, il demande pardon, tu dois lui pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, t'es cruel. Ve'im bikesh mimenu, guimel pamim ve'lo machal. Et s'il lui a demandé déjà 3 fois de pardonner, et qu'il n'a pas pardonné. Chouv, d'accord, en tsarich levakesh mimenu. Il n'a plus besoin de redemander. Ça veut dire, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire ici. Vous avez quelqu'un, d'accord, vous avez quelqu'un qui m'a fait une crasse. Bon, il est venu me demander une fois pardon. J'ai dit non, je me sens pas te pardonner. Une deuxième fois. Une troisième fois, il est venu me demander pardon, avec un intervalle quand même conséquent. Et les 3 fois, je lui ai dit non. Il n'a plus l'obligation de revenir me voir. Pourquoi? Parce que, halakhiquement parlant, on considère que maintenant le problème n'est plus chez lui, le problème est chez moi.
Le problème dans ces trucs-là,
c'est très fort.
C'est que chacun, il pense que...
Comme ça qu'explique le rabbi. Ouais, mais... Ça veut dire qu'on considère que pourquoi au bout de 3 fois, il n'a plus besoin de revenir, pas parce qu'on dit, bon, ne lui prends pas la tête, non. Parce qu'on considère qu'au bout de 3 fois, il a déjà fait le maximum qu'il pouvait faire, et maintenant le problème n'est plus chez lui, la balle n'est plus dans son camp, à celui qui m'a fait une crasse, la balle est dans mon camp.
Comment ça se passe quand
ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les hommes, le maximum au bout duquel normalement on considère qu'on devrait pardonner, c'est combien de fois? 3 fois.
Rien. Imagine que chacun il pense que le tort c'est
d'accord.
L'autre.
Oui, mais c'est rien. Celui qui vient demander pardon.
Ve'agivronim, on a aussi un autre exemple. D'accord. On a l'histoire de Givronim. Alors, c'est quoi l'histoire de Givronim? Vous savez que on a Shaoul qui a tué la ville de Nov. La ville de Nov qui était la ville des Kohanim. Et donc il a tué plusieurs personnes des Givronim, qu'on appelait les Givronim, qui venaient de Givron. D'accord. Donc il les a tués. Bon, c'était une ville, c'est à cause de la Avodah Zara. D'accord. Donc il les a tués. D'accord. Et apparemment, ce qui s'était passé là-bas, c'est que Shaoul avait tué des gens, dans le cadre d'un meurtre général, il avait tué des gens qui étaient innocents, qui ne méritaient pas de mourir. D'accord. Attendez. Shaoul n'a pas demandé pardon. Il s'est jamais excusé. Il s'est jamais excusé. D'accord. Pourquoi? Qui c'est qui s'est excusé à leur place? C'est David Hamelech, le roi David. Le remplaçant de Shaul. Qui s'est excusé. D'accord. Il s'est excusé. Bon, il s'est excusé. Et il leur a demandé de les excuser. Il a dit, il faut que vous devez nous excuser. Les Givonim ont refusé. Ils ont dit, non, on n'excuse pas. On leur a demandé une fois, deux fois, trois fois. Et lorsqu'ils ont refusé de les excuser, d'excuser le Ham Israël parce qu'il s'est passé, parce que c'était des gens qui étaient un petit peu convertis, en fait, c'était particulier. Lorsque ils ont refusé, David Hamelech leur a dit, ben dans ce cas-là, puisque vous avez refusé, ça veut dire que vous n'êtes pas juif dehors. Et il les a fait sortir du cadre du Ham Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas possible. Si vous êtes pas complètement, il y a une longue dissertation sur ça dans la Gemara pour expliquer comment, sur, de quel droit il a pu les mettre dehors. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, on considère que tellement c'est évident qu'on doit pardonner, que même, il y a des gens comme les Givonim, ça veut dire que celui qui les a tués, celui qui a tué des gens de leur famille, il ne s'est pas excusé. C'est un roi qui l'a remplacé qui s'est excusé. Ils ont tous les droits de pas excuser, de dire, non, on n'excuse pas, non, on veut pas excuser. On n'excuse pas, non. On veut pas excuser, on fait la tête. Eh ben non. Ils ont fait la tête, on les a mis dehors. Ça veut dire que dans le Ham Israël, la Kadosh Baruch Hu exige de nous de pardonner. Et de pardonner tout de suite.
Ils excusent avec de l'argent, une compensation?
Non. Non, c'est une excuse. Ils sont excusés
tout. Dans le Gemara que de ma manière.
Oui, non, mais il n'avait pas d'argent là.
Déjà le premier
non, moment, non, après, il était dans une ville où il ne devait pas être. Non, il y avait eu toute une histoire. Non, c'est un peu comme Sabra et. Un peu du même style. Sabra et Shatila. Non mais ça veut dire que. Oui, tu as raison. Mais ça veut dire que bon, ça veut dire qu'il y a eu des. Qu'on appelle ça, il y a eu des retombées qui ne devaient pas arriver. Bon, mais il était dans un endroit où il ne devait pas se trouver. Comme un journaliste qui est là alors qu'il ne devait pas être là. Ah, il est mort. Bah, il est mort, ce que je dis. On va s'excuser, etc. Alors, on s'est pas excusé. C'est un deuxième qui vient pas derrière, il dit on
s'excuse. L'excuse, c'est que tu es responsable.
Oui, parce qu'on se sentait responsable quand même. Parce que concrètement.
Tu dois payer.
Concrètement, mais ça, on parlait même pas de payer, eux c'est l'honneur qu'ils voulaient.
Oui,
c'est une histoire d'honneur.
C'est
pas de l'argent qu'ils voulaient. Non, dans l'histoire là-bas, c'est pas de l'honneur. C'est une histoire de kavod là-bas.
On a dit qu'on a pas dit que quand ça nous concerne,
oui,
on considère qu'il a fait tchouva.
Dans l'histoire des Givonim, ça n'avait rien à voir avec l'argent. C'est pas de l'argent. C'était une histoire de kavod. De dignité.
On comprend pas ce que tu veux dire parce que. Est-ce que c'est.
Alors, pourquoi tu dis on? Tu parles à ton nom?
Non, je
ne comprends
pas ce que tu veux dire.
Non, mais c'est
nous.
Non,
c'est
mais
il.
Ta
tableau. Tu
m'embêtes,
t'embêtes, attention.
Non, mais. Ça n'a rien à voir avec le bédine, parce que si quelqu'un tue quelqu'un, il va y avoir un bédine, donc il va y avoir une punition, etc. Peine de prison, etc. Ça n'a rien à voir avec ça.
Non.
Toi, tu parles uniquement au niveau du pardon.
Moi, ce que je retiens ici, c'est que les Givonim, à tel point, on leur a refusé de pas pardonner qu'on les a mis dehors.
Non, mais enlève les Givonim, parce que c'est un cas particulier.
Mais non, pas du tout, c'est pas un cas particulier. Parce que ça illustre le fait que pour nous, on doit pardonner, même dans un cas extrême.
D'accord, alors, je vais voir David, je lui brûle sa voiture. D'accord. Oui. C'est un cas, par exemple. Parce que j'ai envie de lui brûler sa voiture, parce que sa voiture, elle est belle, j'ai envie de lui brûler. Je vais le voir, je lui dis, David, tu me pardonnes, je t'ai brûlé ta voiture. Parce que j'ai voulu ta voiture, ça me faisait plaisir.
Eh ben écoute,
tu vas me parler.
Fais-toi plaisir.
Non mais tu dois le rembourser d'abord.
Ah, il fait froid.
T'es sûr?
C'est
sûr ça.
Il y avait pas moins de comprendre.
C'est évident ça. Voilà. C'est évident.
C'est évident.
Là je parle.
C'est dommage.
Mais qu'est-ce que tu vas rembourser à Dieu lorsque tu as fauté?
Non, attends, je parle de
ça. C'est sûr. Mais les Givonim, c'est pas de l'argent qu'ils voulaient. C'était la dignité. Oui, mais c'est pas ça la question ici. C'est évident ça qu'on doit rembourser. J'ai cassé, je paye.
Et quand t'as tué, t'as tué.
La question c'est que t'as un bonhomme qui dit je n'excuse pas.
Enfin,
comment il a tué, il va payer. Ça se paye, ça aussi. Ça se paye. Il y a des indemnités. Des indemnités qui vont se payer. Sauf que là, le Givonim, c'est une famille qui a refusé de pardonner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces trois exemples, d'accord, trois exemples qu'on a donnés ici. Donc, je reprends. Premier exemple qu'on a donné, première preuve qu'on a donnée, c'est une preuve halakhique. Que juste après qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, tout de suite après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu nous dis, Baruch Ata Hashem, ça y est, c'est fait. Marché conclu. Et je le dis, mais je suis sûr, je dis Baruch Ata Hashem, tranquille. Ça veut dire que je suis sûr à 100% que Dieu m'a pardonné.
C'est pour ça qu'on fait la mida trois fois.
Numéro 1. Attends, on va y arriver. Numéro 2. D'accord? Sans même passer par la mida et sans même faire appel à l'Alaha. On va juste faire appel au côté humain qu'Aviachol, la Kadosh Baruch Hu. Si déjà la Kadosh Baruch Hu nous demande à nous, humains, de nous pardonner, même si quelqu'un est Chasvecha, il m'a coupé la main. Il va me payer ce qu'il faut. Il va me payer la honte, le chemin, etc. Mais il veut une demande de l'excuser. D'accord? Il a tout payé, une demande de l'excuser. Et que qu'est-ce que te dit la Gemara là-bas? Je dois l'excuser, je dois faire un effort et l'excuser au premier coup.
C'est un effort, là.
D'accord? Attention, parce que c'est une erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font. Il y a des gens qui pensent que quand on dit excuser, ça veut dire qu'on paye pas.
Voilà.
Ah, pas du tout.
Ça, c'est les chrétiens.
Ça n'a rien à voir, ça. D'accord? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est comme quelqu'un qui fait une bêtise, il dit bon, je m'excuse. Oui, pas de problème, tu t'excuses, je t'excuse, mais tu vas réparer ce que tu as fait.
Voilà.
Pas de problème, ça. L'excuse ici, c'est une question qu'on a touché à la dignité de la personne. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il dit ici ? Si déjà Kadosh Baruch Hu nous demande à nous de pardonner au premier coup, Kalvachomer, que lui aussi, c'est clair qu'il a pardonné au premier coup. Numéro 1. Numéro 2. On voit que chez les humains, le maximum de fois qu'on doit demander pardon, c'est combien ? C'est 3 fois. Et au bout de 3 fois, on considère que maintenant la balle n'est plus dans le camp de celui qui doit demander pardon, elle est dans le camp de celui qui a refusé. Kalvachomer pour Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Que Kadosh Baruch Hu, c'est clair qu'en 3 fois, c'est sûr qu'il nous a déjà pardonné. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, preuve numéro 3, la preuve des Givonim. Les Givonim, qu'on voit que finalement, ils avaient toutes les raisons au monde de ne pas pardonner. C'est pas celui qui les a tués qui s'est excusé. D'accord ? On s'est excusé, mais eux, ils ont perdu des gens de leur famille. Ils ont le droit de dire non, on n'accepte pas les excuses. Que ça reste avec vous, mais on veut pas vos excuses. David Emelech leur a dit, si vous acceptez pas les excuses, ça veut dire que vous n'êtes pas déjà Israël, donc dehors. De là, de toutes ces preuves, on voit quoi ? On voit que c'est une qualité purement humaine qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, à Am Israël, de pardonner tout de suite. Donc, Dilat Morazaken, ou même Midat Akadosh Baruch Hu, Alachat Kama Vekama Leenket. Dans la Midat Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, Leenket, ça veut dire de manière illimitée. Ça veut dire que pourquoi un homme a du mal à pardonner ? Parce qu'il est blessé, parce qu'il est limité, parce que ça lui fait du mal. Et qu'il y a son ego, et que pour pardonner, il doit faire fi de quelque chose qui l'a embêté. D'accord ? Mais à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'enquête. C'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on l'a touché ? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est difficile pour lui à faire fi de la blessure qu'on lui a fait ? C'est clair qu'Akadosh Baruch Hu peut le faire. Donc avec ça, l'Admor HaZaken veut illustrer le fait que lorsqu'on a fait Teshuvah, on doit être persuadé sans l'ombre d'un doute qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Blishum Safek ou Sexfeka. Omash et Meshaprim, ou Mevachim et Hashem, Chanun Hammarbe l'Histoire.
D'accord ?
Alors, le fait que maintenant, on va être Meshaber, on va louer à Kadosh Baruch Hu, et on va bénir à Kadosh Baruch Hu, on dit Hammarbe l'Histoire. Et là, on va venir à la question de Guy de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit ? On dit Chanun Hammarbe l'Histoire. On dit pas seulement que Dieu est miséricordieux et qu'il pardonne. On dit Dieu, et il est miséricordieux, et il pardonne beaucoup. Ça veut dire quoi, beaucoup pardonner ? C'est ou il pardonne, ou il pardonne pas. Ça veut dire quoi, beaucoup pardonner ?
Souvent.
Et ça veut dire qu'on demande des chouvas, on refait une faute, il nous pardonne.
C'est ce qu'on va expliquer. D'accord ? Parce que normalement, ça veut rien dire beaucoup pardonner. Normalement, c'est soit j'ai pardonné, soit j'ai pas pardonné. C'est soit oui, soit non. Quelqu'un dit je te pardonne, mais à moitié. Ça veut dire que t'as pas pardonné. C'est soit oui, soit non. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Hanoun Hammarbe l'Isloach ? Ou Moshe Katou Be'ezra ? En vérité, d'accord, en vérité, quand on dit marbé l'histoire, c'est pas un terme, le copyright n'est pas de l'Amida, le copyright est dans Ezra. Dans Ezra, là-bas, c'est écrit que quand Ezra le scribe, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il parle à Kadosh Baruch Hu en tant que Hanun ha marbé l'histoire, celui qui pardonne beaucoup. C'est-à-dire quoi? Pardonner beaucoup. D'accord?
S'il pardonne,
Alors, l'histoire de Ezra, hein, c'est quoi l'histoire de Ezra? Dans l'histoire de Ezra, il y avait une faute. Il y a des gens qui se sont mariés avec des femmes non juives. C'est l'histoire qui est racontée dans le livre de Ezra. D'accord ? Donc il y avait des gens, à certains moments, on a négligé le fait, l'interdiction de. On avait affaire à des gens religieux, des gens qui connaissaient la gravité de se marier avec quelqu'un qui était une femme qui n'est pas juive, et concrètement ils se sont quand même mariés. On était à l'époque de. Juste avant le deuxième temple. Vous avez des gens qui se sont mariés avec des Nashim Norchiot, comme on les appelle là-bas, c'est-à-dire des femmes non juives. Et là-bas, Ezra raconte comment ces gens-là ont fait Teshuvah, et comment Akadosh Baruch Hu, il était marbé l'histoire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné. Il leur a pardonné comme si de rien n'était. D'accord? Et pas seulement ça. Quand on lit l'histoire de Ezra, on voit que ça s'est pas passé seulement une fois. Le problème s'est reproduit, c'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui faisaient Teshuvah, et c'est pour ça qu'on dit marbé l'histoire. Vous avez des gens qui faisaient Teshuvah, et après ils recraquaient, ils retombaient. Après ils refaisaient Teshuvah, et après ils retombaient. D'accord ? Et c'est sous ça que Ezra là-bas, il a employé le terme, que Kadosh Baruch Hu, il est marbé l'histoire, qui pardonne beaucoup. C'est-à-dire quoi beaucoup ? Dans marbé, on a le mot rav. Rav qui veut dire de nombreuses fois. Et ça, c'était nouveau. Parce que, je veux dire, même à l'époque du désert, jamais la vérote ont été aussi proches que ce qui est passé à l'époque de Ezra. À l'époque de Ezra, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire, on avait des gens qui fautaient, qui faisaient teshuva de manière sincère, et qu'après ils retombaient, après ils refaisaient teshuva, et Ezra, il était perdu, il savait pas quoi faire. Et c'est là qu'il a innové, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hanoun Hammarbe l'Histoire, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'il pardonne, il pardonne beaucoup.
À chaque fois.
D'accord, il pardonne à chaque fois. Il pardonne autant de fois qu'il y a besoin. Et ça, c'est extraordinaire. Verrav l'histoire. Mais bon, ça, une fois encore, un autre cours que sur ça, parce que on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui.
Comment
donc ce sera le sujet du cours de la semaine prochaine.
Comment on conçoit qu'il punit alors, même après la Tchouba?
Mais qui a dit que la punition c'est... Enfin,
quelle religion c'est autre chose?
C'est mal.
Bah, c'est mal si tu souffres.
Au contraire?
Non mais il t'a pardonné mais c'est puni quand même.
Ah oui?
Il t'a pardonné mais il est en train de te nettoyer, ça c'est pas une contradiction?
Ouais, c'est nettoyage en fait.
C'est nettoyage? C'est ça.
Est-ce que tu payes? C'est dommage.
Alors, ça c'est le cours de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Dans le cours de la semaine prochaine, on va expliquer que finalement, de quel droit... D'accord, donc voilà. Je vais résumer en un mot ce qu'on a étudié aujourd'hui. D'accord, le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est quoi par rapport au chapitre 34? Numéro 1, on a commencé à ramener ce qui est dans un chapitre 34. On a expliqué qu'une personne est capable d'avoir deux sentiments contradictoires en même temps sans aucun problème. D'accord? Pourquoi? Puisqu'on a deux entités en nous. Une entité de l'âme divine, une entité de l'âme animale. Et donc, l'entité de l'âme divine peut être contente d'être revenue vers la Kadosh Baruch Hu grâce à la Tchouva. Et l'entité de l'âme animale peut être frustrée du retard qu'elle a pris. Il n'y a pas de problème, les deux peuvent se passer en même temps. Le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est quoi? Par rapport au chapitre 34. C'est que, on a expliqué aujourd'hui on est obligé de rajouter le paramètre de la Emouna et du Bitachon dans la Tchouva. C'est qu'à un certain moment, le Yetzahara, il vient, il nous met des doutes. Il nous dit, peut-être que Dieu ne t'a pas pardonné. Peut-être que tu n'as pas fait une bonne teshuva. Et on est obligé d'être ferme avec le Yetzarara, avec tous les termes qu'il a dit ici. D'être ferme avec le Yetzarara et de lui dire « Akadosh Baruch Hu m'a pardonné sans l'ombre d'un doute ». On a amené des preuves halachiques pour ça, avec la bracha. On a amené des preuves humaines, que si déjà Akadosh Baruch Hu nous l'exige, qu'Alva Chomer, que lui aussi il l'accomplit, et c'est clair qu'il nous a pardonné. Bon, mais là il y a un autre paramètre qu'on n'a pas encore pris en compte. C'est que ça on peut le dire si la personne faute de temps en temps. Là, le problème avec nous, c'est que si on fait la mida 3 fois par jour, ça veut dire qu'on part de la base, qu'on a fauté au moins 3 fois par jour. Au moins. Ce qu'on va expliquer après. Là, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Parce que dans ce cas-là, le fait de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, c'est un petit peu comme si on se moque de lui. Ben oui, quand tu demandes pardon à quelqu'un l'après-midi, alors tu sais que tu viens lui demander pardon le matin, et que tu sais qu'il lui redemandera pardon le soir, et tu sais pertinemment que le lendemain matin, tu redemanderas encore une fois pardon, quelque part, c'est comme si je me moque de lui. Donc, est-ce que, dans ce cas-là, on n'obtient pas l'effet contraire?
La claque.
D'accord? C'est la claque qui dit bon, ça va, c'est bon. Elle est dehors.
Ouais,
dis, attends, tu te moques de moi ou quoi? D'accord? Ça, c'est un sujet qu'on va devoir, ne croyez pas que la réponse est simple, la réponse est très compliquée. C'est un sujet qu'on va développer la semaine prochaine. C'est le concept de marbé du sloir. Comment un kadosh, c'est une qualité extraordinaire d'un kadosh bankrou. On va devoir développer comment et pourquoi, parce que ça, je peux pas expliquer comme ça en 2-3 minutes. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, ce qu'on a pu expliquer, c'est l'assurance qu'on doit avoir que j'ai fait teshuva et Dieu m'a pardonné.
Non, je viens dormir. Enfin,
il y a aussi les fautes qu'on fait sans faire exprès. Il y a aussi les fautes qu'on fait par... sans faire exprès, je veux dire, on n'est pas forcément responsable. Des fois, on est responsable, mais on ne fait pas exprès. Alors, ça peut être aussi ça. Ça remplace les corbanotes.
Alvaï, c'est ce que ça.
Non, mais tu peux penser que c'est que ça aussi. Mm-hmm. Tu peux penser aussi que c'est par rapport au gigouli, mais tu peux penser que c'est par rapport aux autres.
Quoi, on ne fait pas d'avérote pendant la journée?
C'est possible.
Bon, on va en parler la semaine prochaine. Ok.
Moi
je donne pas de réponse.
C'est
pas logique de faire 3 fois la mitzvah. Excuse-moi, ça s'appelle se moquer de Dieu de faire toi la mitzvah 3 fois par jour. De demander à Dieu 3 fois par jour, excuse-moi, d'accord. Pour moi ça s'appelle se moquer de Dieu.
Oui, mais les corbanotes, c'était pour les fautes que t'as pas
fait. Imagine-toi, tu fais tous les jours, 3 fois, au moins 3 fois par jour, la même gaffe envers ta femme. Et chaque fois tu viens, tu dis excuse-moi, je t'en prie, chérie, excuse-moi. Non, je dis, bon, ça va.
Je crois qu'il y a un problème.
Ne t'excuse pas, c'est plus simple.
Hein, les fautes, tu fais pas exprès, je veux dire. Comment on appelle ça, selon. Les fautes, tu fais pas exprès. On a vu, il y a les ratas.
C'est pas la chrète.
Chrète,
oui.
Bon, les sacrifices des corbanotes du temple, c'était...
Et si on est minyan,
oui, mais dans le sphère, là, nous, on demande à Kadosh Baruch Hu nous pardonner toutes les catégories
d'ailleurs. Oui, mais c'est sur le plan de la communauté.
Pas du tout.
C'est pas que sur le plan individuel.
Pas du tout, non.
Pardonne-nous.
Pas du tout. Alors, et quand on demande à Kadosh Baruch Hu pardon sur la vérote qu'on a fait? Sur la vérote qu'on a fait, pas intentionnellement. Intentionnellement, quand on demande à Kadosh Baruch Hu pardon, c'est nous.
J'ai pris l'option, putain.
À part, oui, mais c'est pas évident, parce qu'à partir du moment où les choses ne sont pas claires, on fait forcément des
erreurs. C'est quoi, c'est pas clair? C'est écrit clairement. On t'a couvert les avérotes volontaires et les avérotes involontaires. C'est clair?
C'est pas qu'on a l'époque du Machiav où c'était évident que Hachem il est là comme la mer dans les océans, que l'eau dans les océans.
Alors?
Et là on est dans un monde qui est complètement brouillé.
Oui, non, mais c'est pas ça. Lui ce qu'il veut prouver d'ici, c'est que dans le texte qu'on a instauré la Tchèque Mesetagadola, c'est qu'il y a une preuve.
Non, je comprends ta question.
Ça pardonné.
tu comprends ta question, on répondra la semaine prochaine.
Bon, qu'est-ce qui se passe sur Facebook ?